en action concrète.
Une émission conçue pour la promotion de la femme.
Que fait la femme pour survivre?
Comment développer le travail de la femme?
Quelle est la position de la femme dans le monde du travail?
Pour en savoir plus,
suivez l'émission Femmes en action concrète.
Femmes en action concrète.
Une émission qui valorise les activités de la femme et de la jeune fille au quotidien.
À la présentation,
Régine Bahia Pai Pai.
Femmes en action concrète.
À suivre chaque lundi à 16h30 sur la bande FM Radio Maria 89.9 MHz Kinshasa.
Vous désirez participer à cette émission?
Contactez-nous au plus 243 89 48 70 426.
Bonsoir, bonjour à vous tous, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria. Ça dépend de l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue à cette émission Femmes en action concrète. Régine à la présentation et à la régie, c'est Gaylor Kamangou qui réalise cette émission. Du jour, je salue l'invité, c'est bien la sœur Véronique Lundolo. Bonsoir et bienvenue chez nous.
Bonsoir, Madame Régine.
Chez vous aussi, dorénavant. Alors, pour une brève présentation de notre invitée de ces jours, elle est la sœur, comme je l'ai dit, la sœur Véronique Lundolo, sœur ou religieuse de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, PICPUS, ancienne provinciale de la congrégation en Afrique et actuelle directrice générale de l'ISPEC, Institut supérieur pédagogique catholique de Kinshasa, professeur à l'UCC, USAKIN, ISPT, KIN et à l'Université Saint-Thomas d'Aquin. C'est notre invité du jour, vraiment très chargé comme responsabilité. Alors, il y a autre chose à ajouter, sœur Véronique, en dehors de tout ce que j'ai dit, comme tout ce que j'ai relevé à la présentation?
Et merci beaucoup, Madame Régine. Il n'y a pas que ça comme activité que je fais. Je suis d'abord religieuse, donc j'ai beaucoup d'autres activités pastorales au niveau de l'Église. Je suis maman catholique. J'ai travaillé longtemps comme aumônière des canals de doyenné Saint-Kibouka. Mais en même temps, je reste maman catholique de la paroisse Saint-François-Xavier de Massina. Et puis, j'ai été ma mère des groupes K. Du doyenné Sainte-Thérèse, ma mère a des canals aussi, et puis du doyenné Saint-Kibouka encore. Et maintenant, je suis ma mère honoraire, comme on dit. Donc, ben, je continue, je porte les groupes K, j'étais catéchiste, j'ai donné autant de fois la catéchèse sur la confirmation, la première communion. Alors, je suis formatrice des formateurs d'éducation à la vie.
Formatrice des formateurs d'éducation à la vie.
C'est-à-dire
donc,
nous formons...
tous ceux qui donnent le cours d'éducation à la vie, vous êtes parmi les formateurs.
Voilà.
Alors, la sœur Véronique est née d'une famille de combien d'enfants?
Je suis née dans une famille de 6 enfants. Nous sommes 4 sœurs et 2 frères.
Quand vous dites 4 sœurs, j'ai l'impression que ce sont des sœurs religieuses. Donc 4 filles.
4 filles, oui, ce sont mes sœurs.
Voilà.
Ce sont mes sœurs. Mais nous sommes 2 religieuses.
2 religieuses. Bien. Donc dans la famille, vous avez sur 6 enfants, vous avez dit 6?
Oui.
6, c'est 2 religieuses. Ça, c'est une bénédiction pour la famille, ma sœur.
J'espère que oui.
Et votre sœur, elle est dans quelle congrégation?
Elle est Bon Secours de Paris, je crois que vous l'avez déjà reçu ici, sur une émission de vocation, je crois.
Voilà, alors c'est la famille, qui connaît un peu bien Radio Maria. C'est une bénédiction, je le disais, pour la famille. On se pose beaucoup de questions, bon, les religieuses dans l'église catholique, qu'est-ce qu'elles font? Les masseurs, basseurs, basalaranini. On va un peu découvrir, déjà je crois dans la noce, la sœur Véronique avec divers casquettes et tout ça, c'est qu'elle fait. Alors, née d'une famille de 6 enfants, vous êtes l'aînée?
Non, je suis la deuxième.
Deuxième. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours religieuse. La vocation, est-ce qu'en famille, en dehors de vous, il y a aussi d'autres religieux ou religieuses dans la grande famille élargie?
Dans la grande famille élargie, j'avais un oncle paternel qui était religieux, mais qui est déjà décédé. Et puis, ma mère nous a toujours dit qu'elle voulait être religieuse, mais on ne l'a pas laissé.
Elle a transmis à ses deux filles.
Voilà. Et puis, bon.
Alors, parlez-nous, comme je disais, en quelques mots, de votre vie religieuse. Il y a tellement de choses à dire sur la sœur Véronique, à découvrir aujourd'hui.
Oui, parlant de religieuse, je n'avais pas fini. J'ai une cousine qui est religieuse de Sainte-Thérèse de Kinshasa,
okay.
Qui est ma sœur aînée, qui est fille à ma tante maternelle. Mais au moins, je suis entrée au couvent en 98. Et j'ai fait la candidature. C'est une étape que les autres appellent pré-postulat.
Mm-hmm.
Et ailleurs aussi, on appelle propédétique. Et après une année, j'ai fait 3 ans de postulat. Et au cours desquels, j'ai fait les études philosophiques. Et 3 ans après, je suis allée au noviciat. J'ai fait 2 ans de noviciat. Et en sortant du noviciat, alors, on m'a envoyé enseigner au collège. Et j'ai été enseignante. J'ai donné cours toutes les sciences, donc, entre guillemets, au niveau du secondaire, l'anatomie, la botanique, la zoologie, les travaux manuels, mm-hmm. Ça c'était un cours que les élèves n'aimaient pas trop, et puis la philosophie. Et après, j'étais dans la mission ailleurs, et j'ai travaillé avec les enfants victimes des VIH, mm-hmm. qui étaient orphelines. Nous avions un centre où on accueillait tous ces enfants. Et après, je suis revenue encore à Kinshasa, où j'ai travaillé dans notre grand centre, qui s'appelle Père Damien Massina, où j'étais administratrice.
Oui.
Et puis, je suis allée comme intendante du collège Père Damien Mokali. Et après, durant tous ces temps aussi, j'ai donné cours à la propédétique chez nous, parce que nous avons l'école de propédétique intercongrégationnelle chez nous. Il y a d'autres congrégations qui viennent. J'ai donné cours de français et puis d'éducation à la vie.
Oui.
Et après, je suis rentrée aux études. Je fais les masters en philo et puis je suis allée en Espagne où j'ai fait les doctorats en philosophie et avec orientation anthropologie. Et j'ai été maîtresse de novice en Espagne durant ces temps-là, pendant que j'étudiais.
Oui.
Et puis j'ai été élue provinciale, je suis rentrée ici. Mais en même temps, j'ai commencé ma carrière comme professeure à l'université. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai été nommée directrice générale de l'ISPC. Donc voilà un peu. Donc, entre les études, les activités pastorales, parce que durant tous ces temps, ça, c'est vrai, je parle de ma carrière comme enseignante ou administratrice ou directrice, je ne sais pas. Mais en même temps, durant tous ces temps, j'étais avant tout catéchiste. J'ai donné la catéchèse à Cœur Immaculé de Marie. J'ai donné la catéchèse pour la confirmation. Et puis des premières communions à Saint-Boniface, à Saint-Athanase. Et puis j'étais ma mère à l'Égopka, j'étais maman catholique.
Donc, et vous l'êtes jusqu'aujourd'hui?
Je le suis jusqu'aujourd'hui et j'aime beaucoup la pastorale paroissiale. Peu importe tout ce que j'ai à faire, mais au moins j'ai 1 ou 2 jours pour la paroisse.
En vous entendre parler, vous avez tant de choses à faire. Comment vous organisez votre charge horaire, étant religieuse, en même temps professeure? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre charge horaire?
Très bien, une question fondamentale. Et normalement, nous avons la prière les matins, les laudes. Après, il y a la messe. Nous avons la messe à 6h15 à la paroisse. Mais maintenant, j'ai changé des communautés de vie. Alors, donc, on a les lots de la messe incorporée les matins à 6h.
Mmh.
Et puis, à 6h30 ou 45, par là, ça finit. Et alors, ce que j'ai fait actuellement, là, je reste au moins 1 heure seule à la chapelle pour faire une adoration personnelle parce que c'est une de nos dévotions. Et alors, autour des 7h45, je sors, je vais au travail.
Alors, c'est quoi?
Puis, quand je reviens le soir, il y a les vêpres. Donc,
vous ne manquez pas les vêpres?
Je ne manque pas non plus. On a la prière à 18h30 et j'y suis.
Et donc là, on va vous libérer bien avant pour ne pas t'élever les vêpres.
Merci.
Alors, oui. Alors, ma sœur, merci d'abord pour la présentation de votre charge horaire. Nous savons que chaque chose a son temps, comme on le dit. Il suffit de bien organiser pour avoir beaucoup de responsabilités. Et il suffit seulement de bien organiser, faire chaque chose à son temps. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés dans cet exercice-là en étant professeur? C'est un autre domaine, hein, c'est un autre monde. Et j'ai cité, vous êtes à l'UCC, vous êtes à Saint-Thomas d'Aquin, à l'ISPT, voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Comment vous vous organisez?
Oui. Et c'est vrai que à l'ISAKIN comme à l'ICC, je suis à temps partiel, donc j'ai quelques cours que je donne à des moments précis.
Notamment?
Oui. Et dès que je termine, là, je suis libérée.
Et c'est quel genre de cours déjà? À l'UCC, par exemple, vous dispensez quel cours?
À l'UCC, l'anthropologie philosophique et puis la question des spéciales des philosophies africaines. Okay. Et puis à l'USAKIN, j'ai l'anthropologie philosophique également. J'ai la question spéciale d'éthique et morale, la philosophie de l'histoire. Et puis à Saint-Thomas d'Aquin, j'ai la philosophie moderne, la philosophie du langage, et puis l'anthropologie philosophique et la sociologie.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce monde?
À l'ISPT, j'ai la diversité culturelle, j'ai la logique formelle. Et puis j'ai l'expression orale et écrite. Les difficultés, il y en a autant. Il y en a autant. Des fois, bon, par rapport au niveau, par exemple, des étudiants, surtout dans les années de recrutement, ça, je n'aime pas du tout parce que souvent, ils viennent de l'école secondaire, ils sont encore vraiment... dans l'ambiance du secondaire, des fois ça paraît embêtant pour moi, c'est une difficulté dans la transmission parce qu'on a tendance à parler comme si on était en face des personnes qui savaient un peu plus quoi. Et les niveaux d'études aujourd'hui et ce que nous savons, des fois on doit être un peu flexible pour redescendre au niveau et alors ça, des fois ça me met en bite.
Parce que vous voulez vraiment avoir...
Oui.
Vous vous situez à ce niveau-là.
Oui.
Et vu la situation, vous êtes obligé de vous rabaisser un peu voilà, pour atteindre ces niveaux. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie?
Je crois oui pour les gagner. Parce que sinon, quand on reste haut, ils ne comprennent pas. Alors,
c'est
un temps perdu.
C'est
un temps perdu. Ils ne comprennent pas et je m'agace moi-même. Et alors, conclusion, il faut aller à leur niveau. Mais en même temps, la situation, la circulation, donc la mobilité au niveau de la ville est compliquée.
Oui.
Donc, quand il faut concilier les horaires de la vie communautaire, ça c'est sûr, et les travails, des fois, il faut accomplir tout et on se sent obligé d'arriver des fois en retard. Ou alors, des fois, je prends la moto pour ne pas être en retard. Et alors, ça, c'est risqué un peu, voilà. Mais aussi, la difficulté des collaborations, des fois, c'est aussi, hein, ça existe.
Et la collaboration entre étudiants ou bien entre professeurs
Des fois aussi entre professeurs ou entre étudiants. Parce que c'est vrai... À l'UCC, à l'ISAKIN, Saint-Thomas d'Aquin, ISPC, c'est le monde religieux. L'ISPT, par contre, c'est un monde profane. Okay. C'est pas la même chose. Et il y a ni les étudiants, ni les collaborateurs qui peuvent entrer dans votre logique, quoi.
Okay.
Parce que la rigueur et les exigences, des fois, vous fait paraître comme méchante pendant qu'on ne l'est pas.
Non, mais est-ce que ça, c'est seulement au niveau des institutions religieuses où on vous comprend facilement et... Par exemple, à l'ISPT, là, on a des difficultés à vous comprendre, où vous situez, vous
non.
supportez ou comment?
On me supporte bien et ça, c'est ma joie. Mmh. Je le dis vraiment, partout où je passe, où j'enseigne, je suis très bien accueillie. Mmh. Et par les étudiants et par les collaborateurs.
Et c'est quoi le secret?
Oh, les secrets, c'est au fait ma simplicité, mais en même temps ma flexibilité. Voilà. Donc, je ne me fais pas trop grand et je me mets au niveau des autres et des fois peut-être moins.
Et ça, tout en gardant une rigueur.
Oui, et
pour,
alors.
Donner le meilleur de vous-même.
Et c'est une façon de capter les personnes. Bon, aussi, je suis...
Vous êtes maman. Ça joue, hein, ma soeur.
Ouais.
Ça joue.
On met aussi une partie de féminité, dedans.
Oui.
Et aussi, l'accueil. Hein. Mm. L'accueil, c'est la porte de tout. Parce que la façon dont on se présente peut repousser les personnes ou peut attirer
ces personnes.
Et on sait bien situer les choses quand je vais ailleurs. Même si j'ai mes poids des services, ça ne concerne pas tout le monde. On essaye de porter la joie, l'espérance. Et ça, c'est vraiment un grand secret qui fait attirer les personnes autour. Et puis, ça facilite beaucoup.
Alors, dans la compréhension des cours, partout vous dispensez les différents cours. Comment vous jugez la compréhension, l'appréhension des notions par rapport aux étudiants? Est-ce qu'ils comprennent facilement? Vous pouvez mesurer les niveaux des étudiants par rapport à l'UCC, Saint-Thomas d'Aquin, ISPT? Est-ce qu'il y a lieu de voir les difficultés? Parce qu'au moins, vous êtes dans trois institutions, presque quatre.
Mm-hmm.
Les difficultés, ça se situe à quel niveau?
Oui, la grande difficulté se situe au niveau même des bases de l'instruction à partir de l'école secondaire, primaire. Je ne sais pas trop juger. Et quand ils arrivent à l'université, dans un premier temps, c'est un monde nouveau, ils doivent s'adapter. Mais une des choses aussi, c'est la stratégie qu'on m'a donné cours. En tout cas, je compose mon cours et je les transmets de manière à ce que ça soit
même
passable.
Même le plus faible comprenne,
oui,
arrive à comprendre.
Parce que je n'enseigne pas qu'avec la parole, j'enseigne avec les gestes.
Vous
aussi.
Avez cet avantage d'être religieuse en même temps, professeur, vous transmettez un peu le tout, les spirituels dedans, il y a des conseils,
la morale dedans,
tout est mélangé.
Toutes les motivations possibles, mais cela n'exclut pas qu'il y ait des personnes qui ne réussissent pas, qui ne comprennent pas, et on a de la patience, alors ils ont la possibilité d'une deuxième session, et voilà. Mais au moins, la grande partie comprennent.
Voilà.
Et là, ça fait ma joie. Et à Thomas d'Aquin, par exemple, on a des auditoires de moins de 20 personnes. Et là, c'est très flexible, c'est passable. Les cours se donnent comme si on était en train de causer. Et
c'est un petit club comme ça.
Et les gens comprennent facilement. Par contre, dans les auditoires où il y a trop de monde, à l'ISPT par exemple.
Vous avez combien d'étudiants dans une salle?
Il y a des étudiants qui sont plus de 500. Et dans d'autres facultés, par contre, vous trouvez aussi des étudiants moins de 50, moins de 20. Et ça, là, les cours passent facilement. Mais ce qui est étonnant et intéressant, parce que souvent... Et les jours des examens, j'ai des auditoires remplis. Il y a des
donc, il y a des ceux qui ne viennent pas pendant le cours, qui se présentent seulement lors des
examens. Oui. Et puis, des fois, j'ai dit, je ne vous connais pas. Je ne vais pas interroger à des personnes que je n'ai pas enseignées.
Vous avez la liste des présences?
Chaque jour. Et on se moque de moi, on dit, c'est comme à l'école secondaire.
Voilà. C'est un peu l'humanité prolongée.
Oui. Mais au moins, c'est pour m'assurer de qui est souvent en classe.
Tout à fait. C'est aussi encourager.
Oui. Et si jamais il ne réussissait pas, alors je me demande, il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'est mal passé.
Oui.
Mais par contre, ceux qui ne viennent pas, ça n'étonnerait pas qu'ils ne réussissent pas.
Tout à fait. Mais on va un peu parler du système LMD, puisque vous êtes professeur. Ce sera juste après cette pause. Gaylor Kamango va nous proposer un morceau de musique et on se retrouve juste après. Beaucoup Gaylor Kamango pour ces chants que j'aime bien. Nous honorons la femme, nous faisons la sensibilisation de la femme, nous valorisons la femme dans ce qu'elle fait, quelle que soit sa casquette, mère, religieuse, jeune fille, de partout où vous êtes dans une activité. Je crois que cette émission, c'est un espace offert à toutes les femmes, toutes les jeunes filles. Vous avez besoin de venir, que nous puissions découvrir ce que vous faites. Voilà, donc vous ne pouvez que nous contacter après l'émission. Je crois que le numéro sera contacté. Alors, je suis avec la sœur Véronique Lundolo, qui est professeure dans plusieurs institutions de La Plate. Nous sommes bien à Kinshasa. C'est avec elle que nous nous entretenons. Je rappelle donc mon invitée, elle est d'abord religieuse des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, Picpus, ancienne provinciale de la Congrégation en Afrique. Et actuellement, elle est DG ou directrice générale de l'ISPEC, Institut supérieur pédagogique catholique de Kinshasa, professeure à l'UCC, USAKIN, ISTP, KIN et à l'Université Saint-Thomas d'Aquin. C'est avec elle que nous nous entretenons. Vous posez des questions, elle est religieuse, oui, elle est religieuse. On se pose toujours des questions. Bon, ma sœur, Basala Kanini, Bapesa Bisoka Bakominio, tout le monde, Arabaonka, les sœurs sont partout et très actives dans ce qu'elles font. Et là, je reçois une sœur qui est professeure dans beaucoup d'institutions et des étudiants ou étudiantes qui nous suivent en ce moment vont également la reconnaître. Elle était aussi, elle est toujours ma mère. Est-ce qu'on est ma mère à vie? N'est-ce pas ma soeur?
Bien sûr que oui, je n'ai pas
encore maman catholique, maman catholique en plus.
Oui, oui.
Voilà, alors avant la pause, on parlait un peu des difficultés que vous rencontrez dans l'enseignement, la compréhension, la dispense des cours, la compréhension même des cours par vos étudiants. Et je l'avais annoncé, on parle un peu du système LMD. Ça fait combien d'années vous êtes dans l'enseignement?
Et depuis 2022 que j'ai commencé à enseigner, et c'est vrai qu'il y a une des difficultés majeures que je n'ai pas dit, et c'est en même temps une souffrance pour moi, c'est les moyens économiques des étudiants. Et alors, mais sachant sœur. Alors, elles viennent avec leurs problèmes. Mmh. Et souvent, ils te disent, j'ai payé ça, mais mon papa n'a pas ça, je ne peux pas faire l'examen, si vous pouvez m'aider. Ou alors, soit si vous pouvez trouver quelqu'un pour m'aider. Et alors, c'est une souffrance. En même temps, enseignante, mais en même temps religieuse, alors ça me renvoie pas seulement au professionnalisme, mais aussi à la pastorale.
Et alors donc la pastorale vous suit partout.
Partout. Et alors donc on devient pas seulement professeur, mais inhumaniste. Et c'est vrai que des fois les étudiants me provoquent beaucoup. C'est toi, Lisa, qui on m'appelle Mama Soso. Des fois. Oh, mais provoquer, on dit, alors vous devenez maman ici ou vous êtes professeur parce que vous voulez porter aussi les problèmes. Mais ça me fait très mal et alors je suis obligée d'agir et en même temps c'est une souffrance pour moi.
Et tu vois, on ne peut rester indifférent.
Indifférent, surtout quand vous voyez que c'est un petit très intelligent et qui vaut la peine. Et alors donc on sacrifie peut-être les peu qu'on pouvait recevoir et puis voilà.
Étant dans l'enseignement, sœur Véronique, comment vous jugez le système LMD?
Le système LMD, c'est vrai que porte beaucoup de malentendus ici. Depuis que je suis ici, j'écoute LMD, pas LMD, ça convient, ça correspond pas et mal, tout. Et ça dépend. J'ai étudié dans ce système. En Europe, je vis que c'est un bon système qui nous fait responsable. Parce que les professeurs arrivent, ils donnent son introduction, ils vous laissent la bibliographie, ils vous envoient à la bibliothèque, vous faites des recherches, vous devenez maître ou maîtresse de vous-même et de votre cours et vous discutez ça avec lui après. Et pas seulement avec lui, mais avec les autres. Donc chacun revient avec ses recherches et on se met, on discute, on voit et où on peut changer, où on peut améliorer, où on peut rejeter et ça enrichit. Mais on avait les atouts. Vous arrivez à l'université, vous avez les wifi, vous avez des salles bien équipées.
À votre disposition.
Vous avez tout à votre disposition, vous avez votre machine et vous avez tout. Ce n'est pas comme ici, là. D'abord, les étudiants, des fois, n'ont pas de place personnelle ni fixe. Et dans certaines universités, ils n'ont même pas où s'asseoir.
Voilà. Ils suivent le cours debout,
debout, par moments, dehors, au couloir.
Et les conditions déjà ne sont pas réunies.
Moi, je dis merci de partout où j'enseigne, à l'ICC, à l'ISAKIN, à l'ISPT, à Saint-Thomas-d'Aquin, à l'ISPC où je suis maintenant directrice. Chacun a une table et une chaise, il peut travailler. Et tranquillement et dignement, mais ailleurs, on trouve des problèmes sérieux. Et alors, il n'a pas où s'asseoir, il suit les cours debout, il n'a pas de wifi, il n'a pas de machines, il n'a pas de lumière. L'électricité, c'est aussi un autre problème. Il n'y a pas de bibliothèque. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, au lieu que les systèmes soient riches, les systèmes deviennent un problème. Parce qu'en réalité, on n'a pas les atouts.
Le terrain n'est pas bon pour l'épanouissement même.
Mais sinon, c'est un bon système qui rend les étudiants responsables et maîtres de leurs recherches. Et ils sont fiers des découvertes qu'ils font eux-mêmes. Sinon, alors, on reste dans les systèmes traditionnels où les professeurs doivent préparer les cours et viennent nous dire. Et nous ne pouvons pas apporter peut-être...
On n'a pas le temps de recherche, on ne fait que recevoir, on attend qu'on vienne nous enseigner. On n'a pas le temps d'aller... Déjà, on peut se le dire, l'attitude ou les habitudes de recherche, même au niveau des humanités, consulter les dictionnaires. C'est vrai que moi j'ai fait les humanités au Sacré-Cœur, Bosangani Sacré-Cœur, parce qu'on a commencé à Bosangani, après l'école descendante de direction, Sacré-Cœur. Nous étions la première promotion de Sacré-Cœur. Et on avait une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque. Mais combien d'élèves vont pour consulter, lire les manuels? Et lorsqu'on va à l'université avec ces systèmes-là, où on ne sait pas consulter la bibliothèque virtuelle, on ne sait même pas. On peut avoir le Wi-Fi, mais est-ce qu'on a ces tactiques de recherche? Est-ce que, donc, il y a beaucoup de choses un peu, je crois, qui sont réunies, qui ne favorisent pas aussi ces systèmes.
Et puis, on va, même si on a les Wi-Fi, on a les téléphones, qu'est-ce que nous constatons? Les jeunes vont, ils font des copier-coller sur Internet, c'est ce que les autres ont fait, et ils viennent présenter, et des fois, ils font des plagiats, ils copient même les fautes, même les points, même les virgules, tout. Et donc, je crois qu'il y a, lieu de renforcer d'abord l'apprentissage des recherches, la lecture, et être ami de la bibliothèque, des livres. Les livres peuvent être virtuels ou ça peut être en dur. Et après, quand on a les goûts, quand on aime, on peut faire plus. Je crois que si on dotait les universités aujourd'hui ici de tout, les systèmes pourraient apporter beaucoup. Parce qu'il y a des ceux qui ne maîtrisent même pas de quoi il s'agit.
C'est ça. On se lance comme ça. Et nous nous voyons lorsque les étudiants viennent pour le stage. On s'est dit, bon, j'ai changé de LMD. Quel système LMD? J'ai trois LMD. Mais vous vous rendez compte que l'étudiant ne comprend rien. Il n'y a rien. Ils n'ont même pas l'esprit de recherche. Ça ne facilite pas les choses. Je crois que vous êtes là quand même pour motiver.
Mais en même temps, dans ce système, ça c'est vrai qu'on dit les étudiants ne reprennent pas. Bon, ils ne reprennent pas, mais les échecs sont gardés quelque part.
Oui.
Ça les atteint parce que vous ne pouvez pas avoir un titre sans avoir validé tout ce que vous avez manqué au long du chemin. C'est pourquoi alors, donc, il faut savoir aussi présenter les affaires aux jeunes. Savoir que ce n'est pas le système d'y laisser aller.
Voilà.
Vous voulez aller dans ce sens-là, mais vous ne finirez pas alors.
Parce qu'il faut montrer aux étudiants les risques. Voilà. Les risques qu'ils
courent. Vous accumulez les échecs, ça vous atteint quelque part, ça vous rattrapera. Et puis, peut-être qu'au lieu de les faire au moment opportun, ça deviendra lourd parce que vous direz, ah ben ça c'était des L1, maintenant je suis à L3 ou c'était à Master 1 et tout, voilà. Je crois que tout ça c'est important, la sensibilisation et la conscientisation.
Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quels conseils vous pouvez donner à ces jeunes, aux étudiants, aux étudiantes? Ça sera un dévolé, d'abord ça et puis on va un peu aussi voir la jeune fille et les mamans qui nous suivent en ce moment. On commence par les étudiants.
Oui, bah, par rapport aux étudiants, ce que je dirais, j'encouragerais les étudiants et surtout les étudiantes, parce que je milite beaucoup pour la cause de la femme. J'anime beaucoup des sessions et des séminaires sur la femme, sur l'affectivité, la sexualité et la promotion de la femme, et je lutte beaucoup là-dessus. Apprendre au sérieux les études, et si on étudie, si on est sérieux, on deviendra grand. On taille son futur dans le présent. Et il n'y a pas un hasard. Il y a un étudiant qui m'a dit, ton Dieu s'appelle comment parce que tu passes des promotions en promotion. J'ai dit, non. On travaille, il n'y a pas question que des dieux, il y a question aussi de travail. Je crois qu'il faut étudier, prendre au sérieux les études. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que les sœurs font? Et on les voit donner la communion. Nous ne sommes pas d'abord les ministres extraordinaires de la communion. On est des personnes, nous avons des pastorales bien déterminées dans l'église, mais nous travaillons. Nous travaillons, on trouve les sœurs qui sont enseignantes, qui sont infirmières, qui sont comptables et qui sont avocats, magistrats. Nous travaillons. Si les gens ne savent pas ce que nous faisons, ils peuvent s'approcher et nous demander, on va clarifier.
Ne vous en faites pas, vous qui nous suivez, nous allons aller vers toutes ces sœurs qui travaillent sous silence, elles font des grandes choses. On va vraiment vous aider à les découvrir, découvrir un peu dans quoi elles sont. Alors, un message, avant même le message, comment vous vivez votre charisme au niveau de la société, dans tout ce que vous faites? Comment vous vivez? Nous rappelez même ces charismes-là.
Très intéressant. Si vous n'alliez pas me poser cette question, j'allais me fâcher. Parce que
heureusement, on s'est rattrapé à la dernière minute.
Professeur, je suis sœur.
Tout à fait.
Donc, notre charisme, c'est la consécration Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Et c'est vrai que ça paraît pire. étouffée et les gens peuvent dire c'est quoi la consécration au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Et nous disons, c'est-à-dire que c'est les fondements même de notre congrégation et de notre consécration. On a la dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Mmh. Et de là, de ces dévotions découle notre mission, ce que nous faisons, qui est de contempler, vivre et annoncer l'amour de Dieu incarné en Jésus. Dans la contemplation, c'est notre vie d'adoration. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait une heure d'adoration personnelle les matins avant d'aller au travail. Et avant, les années qui sont passées, j'ai fait une heure d'adoration au retour de mon service. Après 19h, quand on terminait la prière, je continuais jusqu'à 20h. Parce que c'est obligatoire, notre vie d'adoration personnelle, la relation, l'intimité avec les pères, sinon on ne fait rien. Et à vivre, c'est notre dimension de vie fraternelle en communauté. Nous sommes des communautés internationales, nous sommes appelés à vivre avec tout le monde, pas seulement de notre nationalité, ni de notre province ou de notre région, mais au moins... toutes celles que le Seigneur met sur les chemins, qu'ils soient américaines, françaises, asiatiques. Et à annoncer, c'est notre vie de mission. Et dans la mission, ça j'aime beaucoup, nous œuvrons à la transformation du cœur humain. C'est-à-dire...
Vous œuvrez à la transformation du cœur humain. Donc, vous êtes là à l'université, vous vivez cela.
Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne me limite Mama pas Poule, à être enseignant. On m'appelle Mama Soso parce que j'aimais cette partie.
Exactement.
J'ai dit, s'il pleure, il a moins des frais scolaires, il ne peut pas faire l'examen. Et si je suis indifférente, il reste marqué. Mais si j'agis... Il reste aussi marqué, mais positivement. Et il peut être transformé pour dire, demain, je dois être compatissant parce que quelqu'un d'autre avait été compatissant pour moi. Et on a gagné une âme. Alors, c'est comme ça que nous travaillons à la catéchèse et à l'enseignement. Ouais. C'est là où nous passons les messages pour transformer les cœurs.
Merci beaucoup, ma sœur. Alors, un message à toutes les mamans qui nous suivent, à toutes les jeunes filles, les mamans ménagères, toutes les jeunes femmes qui sont dans des activités, diverses activités qui leur gagnent pain. Un message à toutes ces femmes.
À toutes ces femmes, d'abord, j'ai les grands messages, c'est dire que je les aime bien, et je les porte bien et je prie pour toutes les femmes, surtout les mamans qui souffrent, qui sortent les matins pour aller travailler, chercher du pain. Mais alors, je leur demande de ne pas baisser les bras. Il n'y a pas de saut métier dans tout ce qu'elles font. Elles n'ont qu'à donner du goût et l'essence même de l'humanité dans ce travail pourvu que ça donne des fruits. Les fruits ne veulent pas nécessairement avoir de l'argent, mais comme je disais tout à l'heure, quand ça touche les cœurs et quand on est réellement mère.
Ça transforme.
Et je les encourage à celles qui travaillent, de travailler, de garder la dignité de la femme. Moi, j'ai pris toujours pour que les femmes soient à la hauteur, de lutter contre l'hégémonie masculine et de ne pas être non plus dépendante ou de vivre la dépravation des mères aujourd'hui, parce que des fois on nous critique et les femmes pleurent, mais ce sont elles-mêmes à la base de tout ça. Alors luttons, travaillons et élevons la femme.
Merci beaucoup pour ce mot de la fin, sœur Véronique Lundolo, amie auditeur de Radio Maria. C'en est fini de cette émission. Femme en action concrète. Oui, il y a encore un mot.
Je ne vais pas finir cette émission sans motiver les parents dans toutes les paroisses où vous nous écoutez à inscrire vos filles, vos fils, vos garçons, vos filles à l'ISPC, c'est à Rigini. Nous sommes sur Bianga, la numéro 1. Juste à l'arrêt kiosque, à l'avenue où il y a l'église de Barouti, mais du côté salon, juste l'institut est là. Et on a les sciences commerciales, donc la gestion commerciale, gestion administrative, il y a les GAICEF, il y a l'éducation à la paix et gestion des conflits, il y a la pédagogie religieuse, il y a les sciences sociales. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est pas si cher, donc n'ayez pas peur et vous êtes les bienvenus. Les inscriptions continuent et nos portes sont ouvertes. Venez, on va vous accueillir. Les frais ne sont pas si chers.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, sœur Véronique Lundolo. Merci à vous tous, amis auditeurs de Radio Maria, de nous avoir suivis de partout. Merci aussi à notre réalisateur Gaylor Kamango qui était bien à la régie. On se retrouve lundi prochain, toujours dans le même plaisir. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin que nous puissions connaître ce que vous faites en coulisses. Pourquoi pas donner aussi l'idée aux unes et aux autres femmes, encourager aussi d'autres femmes à travers votre témoignage, votre travail, les difficultés que vous rencontrez. Ça peut fortifier une femme quelque part. Merci à vous et à très prochainement pour une nouvelle émission.
La jeune fille au quotidien.
À la présentation,
Régine Bahia, Pai Pai.
Femme en action concrète.
À suivre chaque lundi à 16h30 sur la bande FM Radio Maria 89.9 MHz Kinshasa.
Vous désirez participer à cette émission?
Contactez-nous au plus 243 89 48 70 426.